I'd like to have a democracy.
ELEC sont le magazine des élections municipales de Radio PFM.
I'd like to have a...
Bienvenue dans ce premier numéro de Élections sur PFM 99.9, associative, libre et sans pub. Vous retrouverez ce magazine chaque vendredi dans Info 30 à 7h30, 12h30 et 18h. On va vous parler des échéances électorales de mars prochain. C'est un peu notre magazine de campagne de ces élections municipales. Salut Nico.
Salut Laura.
Bah déjà, est-ce que tu peux nous expliquer aux auditeurs, auditrices, pourquoi ce nouveau rendez-vous sur PFM ?
Les élections municipales, ça reste un rendez-vous important au niveau de la politique locale. Certes, les politiques locaux ont sans doute moins de marge de manœuvre depuis quelques années et ce ne sont pas elles ou ils qui décident des grandes orientations politiques du pays, mais quand même, ils et elles ont un certain nombre de prérogatives, aménagement, espace public, aide aux associations, investissement dans des structures, tout ça, ça a un impact direct sur nos vies au quotidien, et on sait que les Français et les Françaises sont attachés à leurs élus locaux, souvent le premier interlocuteur politique. Alors, en tant que média local, ça nous semblait important de parler de cette campagne et de le faire d'une manière un peu différente, la liberté de ton de PFM, un certain regard sur l'actu locale.
Une manière différente des années précédentes aussi.
Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on interviewait les candidats, on a aussi déjà organisé quelques débats. Là, on voulait déjà démarrer plus tôt, puis à la fois interroger les candidats, mais aussi parler de dossiers qui nous semblent importants, des sujets de campagne, des sujets locaux. Donner la parole aux assos et aux collectifs qui participent à la campagne en interpellant de manière diverse les candidats. En fait, les élections, le résultat, bien sûr que c'est important, mais le plus important, il nous semble, ça reste le fond, les discussions, les échanges, les prises de position sur les questions clés. Et donc ce temps de campagne préélectorale, c'est un moment démocratique privilégié pour débattre ensemble des enjeux locaux.
Alors, de quoi on va parler ?
Alors avec l'équipe de PFM, donc à la fois les journalistes de l'équipe mais aussi les bénévoles, on a réfléchi tous ensemble à tout un tas de choses. Déjà on va parler d'Arras mais pas que, on parlera aussi de la couronne arageoise, Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Achicourt, Borin-Dinville, etc. Pourquoi pas un peu la campagne arageoise, les communes rurales. On parlera aussi de quelques villes dans la région, Hénin-Beaumont, Lille, Lens, Béthune, Calais, etc. Et puis côté dossier, on parlera de social, de culture, d'écologie, de féminisme, de lutte contre les idées d'extrême droite, donc la base. On parlera aussi de transports en commun, de services publics, de tourisme, d'inclusion, de démocratie locale, enfin bref, on a pas mal de thèmes à creuser jusqu'à mars.
Alors comment ça va se passer ?
C'est un magazine hebdomadaire, donc tous les vendredis, si tout se passe bien, avec une partie rédaction, donc l'actu de la campagne. Guy nous proposera une chronique intitulée « Aux urnes citoyens » et puis donc l'interview dossier, un thème creusé chaque semaine pour évoquer une situation, une problématique de campagne.
Nico, tu as évoqué la chronique « Aux urnes citoyens » de Guy, alias Le Polarski. On vous en propose tout de suite le premier épisode.
Si je vous dis Francis Jacquemont ou Jean Garbé, ces noms ne devraient vous parler, et encore ce n'est pas sûr, que si vous étiez déjà arageoise ou arageois en 1971, et surtout déjà en âge de voter. Et cela ne rajeunira pas les personnes concernées, puisqu'à l'époque, la majorité civile et l'âge du droit de vote donc étaient encore fixés à 21 ans, ce qui nous donne 1950 comme année de naissance des plus jeunes électrices et électeurs de 1971. Si je vous dis Francis Jacquemont ou Jean Garbé, donc, et si vous êtes une arageoise ou un arageois de moins de 75 ans, ça ne devrait pas vous parler. À moins que, peut-être, vous ayez vu ou entendu parler d'un film sorti en 1972, réalisé par Édouard Bobrovski et intitulé « Aux urnes, citoyens ». Avec ce titre et ces histoires de droit de vote, vous aurez compris que ces deux personnes, Francis Jacquemont et Jean Garbé, sont liées à des élections. Et si j'ajoute que le troisième personnage clé du film de Bobrovski s'appelle Guy Mollet, un nom qui cette fois devrait vous parler, et déjà parce qu'il a donné son nom à un lycée et à une place d'Arras, si j'ajoute donc que le troisième personnage clé du film, aux urnes citoyens, le personnage clé du film a pour nom Guy Mollet, vous comprendrez que ce film traite d'élections municipales à Arras et que Francis Jacquemont et Jean Garbé menaient les listes qui s'opposaient à celles du maire sortant Guy Mollet. Ces élections, ce sont celles de 1971, avec trois listes en présence, seulement trois, peut-on se dire aujourd'hui, soit avec regret ou soit avec condescendance. Toujours est-il que les trois têtes de liste, candidats au poste de maire d'Arras, ont accepté d'être filmés durant la campagne électorale, ce qui était une première dans le monde politique français. Alors pourquoi Arras, me direz-vous, pour ce film ? Sans doute par la présence d'un candidat aux dents longues, Francis Jacquemont, jeune sous-préfet, parachuté de Paris par l'UDR, l'Union démocrate pour la République, des gaullistes, adepte d'un marketing politique dit moderne à l'époque, se voyant bien délogé du beffroi d'Arras, celui qui était maire depuis 1945, et estimant que cette expérience cinématographique ne pourrait que lui profiter. Guy Mollet n'a alors pas eu trop le choix et a accepté la présence du cinéaste et de son équipe. Un cinéaste, Édouard Bobrovsky donc, qui est revenu sur le tournage du film et ses péripéties dans un livre « Aux urnes citoyens » aux éditions Flammarion en 1973 et dans lequel il écrit « Pour la première fois en France, des hommes politiques, des manipulateurs d'élections, je cite, ont accepté de jouer leur propre rôle devant des caméras. En pénétrant au cœur de ce système, l'équipe du film a montré que les entrailles de la démocratie grouillent du pire et du meilleur. » Alors le meilleur, tout au moins en termes de résultats de ces élections municipales à Arras en 1971, sera le candidat au CV politique le plus marquant. Secrétaire général de la SFIO de 1946 à 1969, député de 1945 à 1975, plusieurs fois ministre sous la 4e République, président du Conseil des ministres en 1956-1957, Guy Mollet est élu dès le premier tour avec 52,5% des voix. C'est une victoire pour le PS, Parti Socialiste, qui, pour la première fois à Arras, s'était allié au Parti Communiste Français, PCF, alors dirigé localement par Marcel Roger. Pour la petite histoire, c'est lui qui a donné son nom à la grande salle de l'Hospice Saint-Éloi, place de l'Ancien Rivage, bâtiment d'où je vous parle, puisque les studios de Radio PFM s'y trouvent au premier étage. La gauche avait même de la marge en 1971 à Arras, puisque la liste menée par Jean Garbé pour le PSU obtenait un honorable 5,55%. Jean Garbé, qui a ensuite coupé les ponts avec la politique électorale arageoise, n'avait lui rien d'un parachuté et il était possible de croiser son chemin et sa bonhomie à Arras dans les années 1980-1990 alors qu'il y dirigeait le centre d'information et d'orientation. Concernant le PSU, Parti Socialiste Unifié, rappelons qu'il a été fondé en 1960, notamment en opposition à la guerre d'Algérie, et qu'il incarnait ce que l'on a alors appelé la deuxième gauche, une gauche portée par le mouvement social et d'émancipation à l'image de l'expérience autogestionnaire des LIP de Besançon. Un PSU qui, en 1990, se dissoudra dans les Verts ou dans l'alternative rouge et verte. Nous aurons l'occasion de parler de la gauche et des Verts à Arras dans une prochaine chronique. Et enfin, comme vous l'aurez compris, le parachutage de Jacquemont a fait plouf, 41,95% des voix, mais cette expérience a sans doute donné des idées à un des candidats de sa liste de droite, puisqu'il deviendra maire d'Arras près de 25 ans plus tard, un certain Jean-Marie Van Leurenberg. Voilà, vous savez tout sur les élections municipales de 1971 à Arras. D'autres approchent et sont programmées en mars 2026. Si toutes les forces en présence ne sont pas encore connues précisément à ce jour, quelques noms émergent pour Arras. Déjà celui du maire sortant, Frédéric Le Turc, dans le rôle de Guy Mollet en 1971, mais cette fois côté droite et centre. Reste à savoir si les noms de ces challengers, et notamment à gauche, a priori Yannick Crémer pour LFI et Antoine Détourné pour une liste alliant entre autres PS, PCF et Écolo, reste à savoir donc si ces noms passeront à la postérité ou tomberont dans l'oubli.
Est-ce que vous en avez ? Est-ce que vous en avez ?
Merci à Guy pour cette chronique aux urnes citoyens que vous retrouverez chaque vendredi dans ce magazine Élections sur PFM. Avant de passer à la partie dossier, un petit point sur les candidatures à Arras. Alors Guy m'a légèrement devancé dans sa chronique, mais en effet quelques noms émergent déjà pour les prochaines élections municipales. On fait le point ensemble. D'abord, Frédéric Le Turc, maire sortant, fort de victoire dès le premier tour en 2014 et 2020. Premier à lancer la campagne avec la liste qu'il conduit, Arras avec vous. C'est d'ailleurs sur cette proximité que mise le candidat Le Turc en invitant les Arageois à faire part de leurs idées, attentes et besoins pour Arras dans une série d'ateliers thématiques et participatifs. Ensuite, les élus d'opposition, issus de la gauche comme de l'extrême droite, qui comptent bien remplacer l'actuel maire d'Arras. À gauche d'abord, pas de nouveau Front populaire, la France insoumise fait bande à part, faute d'accord avec les autres formations de gauche. Sous le nom Arras à gauche, la liste portée par Yannick Kremer entend bien porter un programme de rupture écologique, sociale et solidaire et contraindre le candidat sortant à un second tour. Pour cela, il s'entoure de têtes déjà bien connues de la France insoumise arrageoise, notamment Morgane Rangard, candidate aux législatives en 2022. Arras à gauche a donc lancé sa campagne le 30 octobre dernier en présentant les thèmes centraux de leur campagne en conférence de presse. Un autre projet culturel pour l'abbaye Saint-Va, la lutte contre les passoires énergétiques ou encore le retour en régie publique de certains services comme la gestion de l'eau. Pour cela, la liste mise sur la recréation de liens avec les citoyens et la chasse à l'abstention, notamment avec l'organisation de cafés citoyens et sessions de porte-à-porte. Quid du reste de la gauche arrageoise ? La liste Le Printemps Arrageois s'est annoncée officiellement le 17 octobre dernier avec pour tête de liste Antoine Détourné, conseiller municipal d'opposition depuis 2014. Une seconde liste qui forme de son côté une union des gauches puisqu'elle rassemble Génération, le Parti Socialiste, le Parti Pirate, les Écologistes, le Parti Communiste, Debout, l'Après et Place Publique. En ce début de campagne, Le Printemps Arrageois vous invite notamment à parler santé et mobilité lors de Café Débat. Enfin, un dernier candidat espère briguer la fonction de maire d'Arras et pour la troisième fois. Lui aussi conseiller municipal de l'opposition depuis plus de 10 ans, Alban Euzel sera candidat les 15 et 22 mars prochains pour le Rassemblement National. Au centre de l'annonce de sa candidature, je cite « une ville paisible et préservée des expérimentations idéologiques observées dans d'autres villes comme Lille, Nantes ou Grenoble, où se multiplient insécurité, dégradation de la propreté, complications de circulation et difficultés commerciales ». Pour terminer ce point sur les candidatures, j'aimerais noter qu'il ne s'agit pas ici d'une liste définitive. Vous avez sans doute entendu, comme nous, d'autres noms circuler. Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre de la Transition écologique, qui récupère aujourd'hui d'ailleurs son poste de députée de la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, a déclaré à Ici Nord « Je n'ai pas tranché, mais je ne m'interdis rien » sur une potentielle candidature aux élections municipales à Arras le 16 septembre dernier. Lutte ouvrière que nous ne retrouvons dans aucune des listes actuelles à gauche laisse pour l'instant planer le doute sur une possible candidature à la mairie d'Arras. Et enfin, rien n'exclut une possible participation citoyenne à cette élection avec la candidature d'une liste sans étiquette. Nico, je te propose maintenant de passer à la partie dossier. Pour ce premier magazine, tu vas nous parler de Saint-Va. Pourquoi ce choix ?
Bah oui, Saint-Va, feuilleton arrageois qu'on suit depuis 2019 sur PFM. Alors pour rappel, le projet c'est de restaurer notre belle abbaye Saint-Va tout en y implantant un hôtel 5 étoiles. Projet ambitieux, nécessaire à la sauvegarde du lieu selon l'équipe municipale en place. Privatisation qui ne dit pas son nom et projet démesuré selon ses détracteurs. 80 millions d'euros quand même, dont 20% à la charge de la ville d'Arras, c'est beaucoup. Saint-Va, c'est forcément un dossier dont il sera question au cours de la campagne. Alors voilà ce qu'en disaient à notre micro les membres de l'association Les Amis de l'Abbaye, opposés au projet d'hôtel de luxe. On écoute Michel Faure, Alain Duez, Yves Camier, c'était en octobre dernier.
Je pense qu'on est effectivement sur un dossier qui sera un dossier que l'on va présenter à l'ensemble des listes. À chaque liste, on va demander effectivement quelle sera leur position. Ça me paraît être vraiment, pour les Arrageois, un dossier qui va être une ligne rouge, emblématique, parce que ce dossier est aussi emblématique de cette équipe municipale. Puisqu'on a différentes choses quand même, voilà, différents éléments qui font qu'on commence à avoir un doute sur l'intérêt que peut avoir cette équipe sur la ville arrageoise, qu'est-ce qu'elle peut apporter. On sent, nous, plutôt une distance qui se fait, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut redonner l'abbaye aux Arrageois, c'est aussi un des slogans du projet. Ça ne veut pas dire grand-chose, surtout quand on voit ce qui se passe. Est-ce que faire un hôtel 5 étoiles dans un monument historique va faire qu'on redonne l'abbaye aux Arrageois ? On en doute.
D'autant que l'abbaye est, au cours de son histoire, a toujours été au service du public. que ce soit à partir du moment où la ville est devenue propriétaire de l'abbaye, l'ensemble du bâtiment a été occupé par un certain nombre d'associations, de services publics, d'activités culturelles, qui font que, en parallèle avec le musée et la médiathèque, on avait un ensemble globalement dédié à l'activité culturelle et au service public. Or là, on va scinder en deux le bâtiment, ce qui va rompre son unité architecturale, qui va poser un tas de problèmes de circulation, de contrôle des flux, population, etc. Et on va casser cette vocation de ce bâtiment.
Oui. Je dois ajouter que puisqu'on parle de futur projet municipal, que dans un projet public municipal, d'ailleurs, on ne cesse de... Parce qu'il est déjà aujourd'hui presque esquissé. Enfin, on voit beaucoup d'inaugurations, d'explications en cette période préélectorale. Nous, ce qui nous projette dans l'avenir, on dit bon, allez, 70 ans, puisque c'est présenté comme une mise à disposition d'un privé pour 70 ans. Sauf que dans 70 ans, plus personne de nous ne sera là. Mais comment vous allez retransformer les lieux si on décide de... Tiens, si on décidait d'étendre le musée, par exemple, en mettant quelques idées comme ça, parce que, qui n'ont pas du tout été développées, mais qui auraient pu l'être. Capitale de la draperie à Arras, de la tapisserie. Il n'y a pas de musée, en dehors de celui d'Aubusson, dédié à la tapisserie en France. C'est l'occasion, ça a été l'occasion de étendre la capacité actuelle actuelle, jusqu'à l'année dernière, du musée en tant que tel. Et puisqu'on a bien vu par le passé récent, c'est l'abandon total du soin qu'on mettait au musée lui-même, et ne serait-ce que ne pas désigner un conservateur répondant aux conditions normales, on voit bien qu'il y a une volonté de rabaisser la fonction historique de cet ensemble que moi, étant jeune, j'ai connu comme étant un lieu de vie extraordinaire. J'ai rappelé les éclaireurs de France qui y étaient, mais il n'y avait pas que les éclaireurs. Il y avait aussi, outre le musée, il y a eu un moment un musée de la déportation. Il y avait des services de l'État qui étaient ouverts au public. Je veux dire, le plus grand étant la trésorerie générale du Pas-de-Calais, qui était dans cette aile qui était abandonnée. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les mêmes qui, au pouvoir, ont fait en sorte de donner la maladie, c'est-à-dire ne plus rien avoir là-dedans, et le descendre ce qui restait, pour justifier l'installation d'un machin privé dans cet ensemble, qui privera à l'avenir de toute possibilité culturelle d'extension. Donc, le système, on va aujourd'hui décider que le système est figé en fonction d'un intérêt privé, qu'on nous fait passer comme un intérêt général, qui, hôtel 5 étoiles, je ne pense pas que ça intéressera beaucoup d'Arrageois, peut-être certains, mais on ne voit pas bien quel est l'aspect général service public de cet organisme privé qui va venir se planter là. Je passe sur tout ce qui est, ce qu'on a rappelé tout à l'heure, l'aspect architectural, l'aspect
écologique.
Aussi, ah bah évidemment, puisqu'en plus de ça, on n'en a pas parlé. Oui. Mais en plus de ça, quand on apprend que la ville va payer à ses frais, avec exclusivement de l'argent public, un dôme destiné à servir les intérêts du groupement privé, je veux dire, pour un défenseur du service public et un défenseur du bien public, c'est absolument ton cul par-dessus tête. Et c'est vraiment oublier l'intérêt fondamental de ce pourquoi on est élu, c'est-à-dire servir les intérêts de la majorité et de ce qu'on appelle le service public, et pas des intérêts particuliers de certains gens qui ont... Je veux dire, certes, les finances, certes, le pognon, mais il me semble qu'en République française, ce n'est pas une République normalement, enfin, c'est ce qu'on nous a appris, ce n'est pas une République qui est basée sur ceux qui possèdent l'argent au détriment de ceux qui n'en possèdent pas. C'est une République de citoyens. Et donc, il y a cet aspect de citoyenneté, cet aspect de service public, d'intérêt public. Et moi, j'ai une idée aussi, bon, qui est peut-être liée à ma formation, mais... C'est du patrimoine public, et le patrimoine public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et ceux qui n'ont rien, ils se reconnaissent là comme étant leur patrimoine, même si ce n'est pas leur bien propre, ça leur appartient. Et ça leur appartient collectivement. Et pour ça, on y tient, et on ne veut pas y faire n'importe quoi, fût-ce un hôtel de luxe. Donc voilà, globalement, philosophiquement, notre, je crois, résumé aussi le caractère de la défense de l'intérêt des lieux. Parce que vraiment, je pense que jusqu'à présent, on en a eu des municipalités, j'en ai bien connu, dont l'essentiel n'était pas l'intérêt de la culture. Mais jamais ils n'auraient osé penser ce genre de choses. Alors aussi particulièrement, c'était pensé parce qu'il y a eu les propositions, puis qu'aujourd'hui c'est la tarte à la crème, enfin, un peu dépassé. Les fameux PPP, public-privé, machin, partenariat public-privé, c'est un peu dépassé parce qu'on s'est aperçu que les collectivités ou les services publics qui avaient utilisé cette méthode-là avaient à payer sous forme de loyer beaucoup plus cher que ce qu'ils n'auraient payé s'ils l'avaient fait eux-mêmes.
Yves Camier, Alain Duez et Michel Faure de l'association Les Amis de l'Abbaye, extrait d'une interview donnée à Radio PFM le 17 octobre dernier. On reparlera à cette antenne de ce dossier et comment les listes candidates sur Arras se positionnent vis-à-vis de ce projet.
Merci Nico, c'est la fin de ce premier magazine Élec-son, le magazine des élections municipales de Radio PFM, à retrouver chaque vendredi dans Info 30 à 7h30, 12h30 et 18h, et quand vous voulez sur radiopfm.com. Democracy.